stops you. Are you racing or watching?
La dispute. Spectacle vivant. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Lucille Comeau, Lily Blum et Marie Sorbier à notre affiche, le misanthrope de Molière, mise en scène Alain Françon, sur l'espace Cardin pour le Théâtre de la Ville, la Dame de chez Maxime de Georges Feydeau, mise en scène Zabou Bretman au Théâtre de la Porte Saint-Martin, pièce d'actualité numéro 14 dévoilée de Richard Maxwell à la Commune, puis il y aura un coup de cœur de Marie Sorbier pour On s'en va, spectacle de Christophe Warlikowski. Nous ouvrons cette dispute avec le misanthrope de Molière, mise en scène Alain Françon. C'est à l'espace Cardin pour le Théâtre de la Ville. C'est curieusement la première pièce de Molière que met en scène Alain Françon, qui n'en est quand même pas sa première mise en scène. Il a réuni, comme toujours, une belle distribution, notamment Gilles Privat en Alceste, Marie-Vialle en Célimène, Dominique Valadi en Arsinoe et Pierre-François Garel en Philinte. Rappelons qu'Alceste, qui est l'humanité dans son ensemble, aime tout de même Célimène, qui elle est femme coquette, médisante. Il va tenter de l'amener dans ce qu'il considère être le droit chemin. Mais il a bien des rivaux, puisque, on le sait, beaucoup d'hommes soupirent auprès de Célimène.
J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond, quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font. Je ne trouve partout que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Je n'y puis plus tenir, j'en rage. Et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain.
Ce chagrin philosophe est un peu trop sauvage. Je ris des noirs accents que je vous envisage et crois voir en nous deux, sous même soin nourris, ces deux frères que peint l'école des maris.
Mon Dieu, laissons là vos comparaisons fades,
non. Tout de bon, quittez toutes ces incartades. Le monde, par vos soins, ne se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appât, je vous dirai tout franc que cette maladie, partout où vous allez, donne la comédie et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès de bien des gens.
Tant mieux, morbleu, tant mieux, c'est ce que je demande. Ce m'est un fort bon signe, et ma joie en est grande. Tous les hommes me sont à tel point odieux que je serais fâché d'être sage à leurs yeux.
Vous voulez un grand mal à la nature humaine?
Oui. J'ai conçu pour elle une effroyable haine.
Tous les pauvres mortels, sans nulle exception, seront enveloppés dans cette aversion? Encore en est-il bien dans le siècle où nous sommes?
Non, elle est générale, et je hais tous les hommes.
La suite. Vous le connaissez par cœur, non? Non, c'est un... je vais faire ça maintenant, je vous préviens. Pour tous les classiques, je vais vous interroger en sortie d'exprès pour continuer. Bon, comme ce ne sera pas le cas ce soir, un premier tour de table pour résumer, comme nous le faisons chaque soir pour chaque sujet, votre impression que vous développerez, Lucille Comeau?
Un spectacle élégant et très honnête.
Lily Blum?
Moi, j'ai trouvé que c'était 50 nuances de gris version neurasthénique.
Bien. Marie Sorbier?
Moi, j'ai trouvé que c'était un spectacle austère, de facture classique, mais qui n'apporte rien à la lecture de l'œuvre.
Bon, on va commencer par la plus positive, Lucille Comeau, qui va développer son sentiment.
Oui, c'est une scénographie qui est très simple, hein, qui est très, très classique en effet, mais c'est, Françon fait
oui.
Ça, il nous a habitués.
Généralement, c'est un mur oblique et une porte. Donc,
voilà, là c'est un petit peu plus sophistiqué. Oui. Bon, on est dans un contexte bourgeois avec un carrelage noir et blanc. À cour et à jardin, il y a des ouvertures, donc d'un côté il y a une fenêtre, de l'autre il y a une porte. Il y a également une peinture classique, un sujet religieux à gauche, et puis en fond de scène, il y a une grande toile qui, je pense, est une photographie d'une forêt de sapins enneigés qui reste assez flou. Selon les lumières, on ne la distingue pas nécessairement. En tout cas, c'est un extérieur et les personnages jouent beaucoup sur les côtés, à cour et à jardin, en déplaçant régulièrement des petits modules qui font office de banc ou de tabouret. Il n'y a pas beaucoup plus de choses que ça. C'est quand même un peu marqué dans le temps parce que les hommes sont en costume, donc ça pourrait être un peu n'importe quand, mais en revanche, les femmes ont des costumes un peu années... Oui, tout à
les
fait.
Hommes.
C'est pas, on n'est pas dans l'époque de l'écriture. Les femmes ont un côté un peu années folles. Elles ont des gants et des robes qui rappellent un peu les années années 20 ou les années 30. Moi, j'ai pensé à Gatsby. Ça pourrait être ce type de milieu-là. Donc, c'est très simple. Le texte est dit très simplement. Ça va très vite. Là où je suis pas du tout d'accord d'emblée avec Lily, c'est que c'est pas du tout neurasthénique. Il y a un rythme. Bon, on reparlera d'autres pièces hein, de ce soir qui, à mon avis, ont des problèmes de rythme. Il y a un rythme qui est assez convaincant, notamment dans les enchaînements de scènes. Pas entre les actes, parce qu'il y a des franches ruptures entre chaque acte, avec une petite musique et un noir. Mais entre les scènes, ça va très très vite. Et ça permet de créer des effets de sens que moi, qui adore cette pièce du Misanthrope, je n'avais pas vraiment entendu. Voilà,
j'ai rejoint. Alors, première réponse, alors, de Lily Bloom, parce que 50 nuances de gris, bon, ou de grès.
Oui, parce que, toute la mise en scène joue avec des nuances de gris, donc ça, vraiment, entre les personnages, selon leurs arrivées ou leurs départs et leurs mouvements. Non, moi, la mise en scène, par exemple, c'est pas ce qui m'a dérangé. La scénographie en elle-même est intéressante, donc c'est effectivement une sorte de damier. Dans la méthode Françon, il y a ce côté, effectivement, des personnages qui sont soit dans une action, dans une fonction détonateur ou enfin voilà il les expurge comme ça de toute psychologie de toute et là hélas moi mon problème c'est aussi de toute humanité donc de les voir dans cette mise en scène là où finalement il n'y a que le personnage du misanthrope qui semble ne pas trouver sa place sur l'échiquier et en être exclu donc d'avoir perdu la partie et de devoir en partir pour moi bon cette scénographie là est intéressante même si elle agit comme un tombeau. Mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est que finalement, sa méthodologie habituelle sur le texte, de travailler très... il a une façon de travailler l'Alexandrin de manière très droite, en accentuant tel mot, tel autre, avec une vraie réflexion là-dessus, et en ne voulant pas être psychologique. Et finalement, là, ce qui s'est passé pour moi, c'est que le texte, alors pourtant, Dieu sait que j'aime ce texte, il est devenu totalement inaudible, parce que d'un seul coup, on traverse tous les Alexandrins presque de manière égale, il n'y a plus de respiration, plus de jeu, et ajouter à ça des choix que je ne comprends pas sur cellules humaines particulièrement.
C'est-à-dire
et, à savoir, bah, elle est... alors, elle fait partie des personnages qu'on a le plus de mal à sauver dès le départ. C'est le côté célimène frigide qui n'a pas de... on ne voit pas de désir, de volonté, on ne comprend pas très bien. Du coup, pour moi, mon intérêt pour elle s'est vidé très vite, pour le misanthrope aussi. Donc finalement, les dés étaient jetés dès le départ. Et après, au bout de 10 minutes, je savais que je n'allais plus être surprise. Et voilà. Et du coup, je pense que sa méthode habituelle, qui a fait merveilleusement entendre certains textes de manière surprenante, par exemple Tchekhov, on ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Bon, Edouard Bond, il y a une, filiation, enfin, il y a un lien très évident dans leurs deux travail, donc c'est pas le problème. Mais là, je trouve que ça se fracasse, son travail habituel, son intelligence de texte, en fait, là, se fracasse et fait un spectacle beaucoup trop cérébral où on est presque en contresens avec le misanthrope. Enfin, voilà.
Alors, on voit que Lucille Comeau et ses mimiques habituelles n'a pas l'air du tout d'accord avec vous. Lily, on va la réentendre dans un instant. Donc, du pour, du contre. Marie-Sorbien, j'ai l'impression que pour vous, c'est presque, je vais pas dire rien, mais
ça vous a un peu glissé dessus.
C'est votre côté suisse.
Ça doit être ça. D'ailleurs, je tenais à préciser que je l'avais vu en Suisse à la création à Carouge, donc il y a presque un an. Et il m'est resté de ce spectacle absolument rien. Et ça, c'est quand même un signe assez fort. On en a vu des misanthropes. Et alors, celui-ci est totalement effacé de ma mémoire. Ce qui me fait quand même dire que je crois que Molière résiste à Françon. En effet, il a monté plein d'autres auteurs avec beaucoup plus d'acuité. Là, tout est totalement au même niveau, d'une neutralité terrible. Alors, je trouve que le gris, justement, ambiant et de cette scénographie est assez caractéristique, finalement, de ce qu'il a voulu faire. On est dans un univers où rien ne ressort. Et du coup, il n'y a aucune accroche. Et on finit très vite par ne même plus écouter cette pièce qu'on connaît bien. Donc, on est plus dans le suspense de que va-t-il se passer. Les acteurs sont certes, comme d'habitude chez Françon, de bons acteurs. Mais ce qu'il en fait donne une sensation d'ennui extrêmement rapide et qui ne permet plus d'écouter ce texte. Et c'est quand même assez dommage. Là où je suis d'accord avec Lily, totalement, moi, il y a deux rôles qui m'ont particulièrement gênée. C'est Célimène, mais aussi Arsinoé, qui sont traités toutes les deux de façon totalement neutre et donc il n'y a plus aucun enjeu dans cette pièce.
Bon, alors vous n'avez pas vu le même spectacle.
J'ai vraiment l'impression de ne pas avoir vu en effet le même spectacle.
Si,
sur le côté cérébral, bon, qui est de toute façon totalement assumé, moi je trouve que ça fonctionne parfaitement avec, en l'occurrence, la pièce du Misanthrope, parce que la pièce du Misanthrope, c'est une pièce de Molière qui est très concentrée. Il n'y a qu'un enjeu, véritablement. Elle est courte. Il n'y a pas de valet. Donc il n'y a pas. La question des corps, par exemple, il a choisi de n'en rien faire, de ne pas en faire un paramètre de la mise en scène. Je trouve ça plutôt intéressant parce que du coup le ridicule, qui est quand même la chose qui se partage le mieux chez Molière, circule parfaitement. C'est un damier, c'est un jeu, et ça ne cesse de circuler. Alors oui, en effet, ils sont dépsychologisés totalement, les personnages, mais on a quand même cette espèce d'identification du spectateur qui ne se fixe jamais. Donc parfois, et là le texte est du coup je trouve très bien rendu, parfois on est d'accord avec un tel, parfois on est d'accord avec une telle. Arsinoé, moi c'est un personnage que d'habitude je trouve très mal traité, parce que très ingratement traité. Là je trouve que Dominique Valadier fait quelque chose de très juste en faisant pas du tout une hystérique qui court après Alceste, mais quelqu'un de très posé, très froid, calculateur, et je trouve ça vraiment très intéressant. Quant à Célimène, j'ai eu un petit peu de difficulté à rentrer en effet dans le jeu de Marie Vial au départ, parce que elle a un côté en effet assez éthéré qu'on a du mal à saisir. Mais elle se révèle, je trouve, dans une scène que je n'ai jamais vue jouer comme ça, qui est la scène des petits marquis, qui est cette espèce tout le temps de coup de force que les actrices font. C'est quasiment un moment privilégié pour l'actrice qui joue Célimène, qui est une démonstration de jeu. Là, elle le fait très en retrait, elle hésite. Elle a du mal, en fait, c'est un moment d'orateur où elle décrit tous les gens qui vivent autour d'eux dans un style satirique hyper piquant. Là, c'est tout sauf piquant, parce qu'elle cherche ses mots, elle a du mal, elle est en démonstration, elle sent qu'on la juge, c'est le procès permanent. Et il y a quelque chose de très émouvant qui se joue là et qui détermine tout, après, tout ce qui se passe. Au début, c'est à l'acte 1. Alors vraiment, moi, très impressionnée par cette performance-là.
Oui, moi, Marie Vial m'a agacée dès la première minute. Le jeu en effet, elle est très à distance. Elle est très froide. Il y a quelque chose de glacé sans être glaçant. Vous voyez, cette espèce de différence entre le côté froid qui pourrait générer une lecture différente de la pièce et en même temps qui ne va pas au bout. On est juste dans cette neutralité grise, cette zone grise permanente. Et alors moi, je n'ai jamais ressenti à aucun moment aucune émotion. C'était très, très à distance, surtout le long de la pièce.
Lily Blum.
Oui, alors moi c'est pas donc la comédienne, hein, c'est vraiment les partis pris sur ce personnage-là. À un moment, effectivement, moi je me suis demandé, j'avais perdu tellement les enjeux qu'à un moment j'ai eu l'impression que c'était le procès de Célimène, la pièce. Je me suis vraiment demandé qu'est-ce que ça pouvait raconter.
Mais ça peut totalement être ça.
Et moi j'ai eu une forme de colère devant ce spectacle à un moment, enfin ça, même l'ennui que je ressentais, parce que je me suis dit c'est une pièce qui critique aussi l'entre-soi, le paraître, le fait d'être hors sol et de ne pas voir les mutations. Bon. Et finalement, je me suis dit, c'est aussi Françon là qui est un peu hors sol et déconnecté du monde, quoi, en montant la pièce de cette façon-là. La dénaturer à ce point-là, je m'imagine quelqu'un qui découvrirait le Misanthrope pour la première fois comme ça. Qu'est-ce qui le ferait revenir au Misanthrope? Enfin, je trouve que les enjeux se perdent. Effectivement, le plaisir normalement du Misanthrope, c'est être d'accord avec un personnage et puis deux secondes après changer d'avis. Et puis là, effectivement, on est pris dans un rouage implacable. Éterne et finalement on réfléchit plus sur rien. Moi je trouve vraiment que les dés sont joués dès le départ. Le Misanthrope, il a perdu. Je trouve qu'on ne joue que la partie atrabilaire, le côté caractère. Il est toujours en colère contre tout et finalement il y a plus du tout d'aspect politique. Enfin, il est plus en colère sur rien. Il est ridicule dès le départ. Son sort, je trouve que son sort est réglé dès le départ. Et le désert, finalement, celui où il a envie d'aller, bah, il est déjà là, quoi, sur scène. Qu'est-ce qu'il y a à défendre dans ces humains-là, dans ces personnages-là? Je trouve qu'on ne s'attache à personne. On a envie de défendre personne. On s'en détache très facilement. Je sais pas. Je trouve que, pour le coup, on perd.
Qu'est-ce que vous avez entendu alors, Lucille Comeau, que vous n'aviez pas entendu avant dans ces Misanthropes?
Par exemple, cette scène-là mais détermine beaucoup de choses. Et la fin, je la trouve assez saisissante, mais bon, c'est peut-être un peu dommage de raconter comment il met en scène la fin. Mais il y a un enchaînement des deux dernières scènes qui produit un effet d'attente. Ça ne se clôt pas. Moi, je me suis dit, mais c'est déjà fini, en fait. Parce que vraiment, il y a un enchaînement du refus de Célimène de partir dans le désert, de Alceste qui se retrouve seule et qui immédiatement demande en mariage la copine de Célimène, dont je me souviens plus le nom, mais bon, qui de toute façon refuse. Enfin, tout ça, là, en quelques minutes, se joue les deux refus. Et il y a des espèces de coups de feu qui peuvent être des feux d'artifice. Enfin, on entend quelque chose qui vient de la fenêtre, qui m'a vraiment laissé vraiment le souffle coupé. Je n'avais pas entendu.
Je suis d'accord que la fin est très.
Elle est assez.
Pour dire une note positive, je suis d'accord que la fin est très belle, effectivement ouverte, un peu le.
C'est froid, c'est sûr.
Le Versailles qui arrive, c'est le voilà le nouveau régime qui arrive, et ça c'est très beau effectivement, et on retrouve. Une grâce qu'il peut y avoir dans La Cerisaie ou Ivanov. Hein, j'adore quand il utilise les feux d'artifice. Il est toujours très fort avec les feux d'artifice en off. Et oui, il y a une grâce qui réapparaît sur la toute fin. Voilà, c'était moi.
Marie Sorbier.
Oui, beau, ça l'est. Je crois que c'est pas l'enjeu de la discussion. C'est vraiment l'intérêt pour Françon. En fait, je me suis demandé ça toute cette pièce, et pourquoi il avait voulu justement à ce moment-là de sa carrière se frotter à Molière, et qu'est-ce qu'il avait envie de nous dire. En tout cas, moi, je ne l'ai pas perçu.
Bon, on verra ce qu'il aura à nous dire avec Peter Handke,
qui
connaît personnellement. On va dire ça comme ça, puisqu'il y aura une création d'une nouvelle pièce de Peter Handke dans quelques mois au Théâtre de la Colline, me semble-t-il. Oui, il revient sur ses anciennes terres, puisqu'il était directeur de la Colline. Alain Françon, nous parlions pour l'instant du Misanthrope de Molière. C'est à l'Espace Cardin, donc Théâtre de la Ville, jusqu'au 21 octobre. Et cette production se jouera également à Strasbourg, au TNS, du 4 au 9 novembre. À suivre dans la dispute, La Dame de chez Maxime, telle qu'on la voit en ce moment au Théâtre de la Porte-Saint-Martin. La 14e pièce d'actualité est dévoilée, c'est au Théâtre de la Commune. Et puis un coup de cœur de Marie Sorbier pour On s'en va de Christophe Wajkowski, qui lui viendra au Théâtre de Chaillot.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec La Dame de chez Maxime, Georges Feydeau, mise en scène Zabou Breitman. Là encore, comme chez Françon, une belle affiche. Léa Drucker, Michel Esco, André Marcon et bien d'autres. Zabou Breitman, on s'en souvient sans doute, avait déjà mis en scène Feydeau. C'était à la Comédie Française, au Vieux Colombier. Le système Ribadier, elle retrouve donc... Le roi du vaudeville, avec la plus longue pièce de l'auteur, ce qui n'est pas un gage de qualité, mais on est chez Feydeau. C'est l'une des plus jouées depuis sa création en 1899. Alors, je suis pas sûr de vraiment me lancer dans un résumé de l'intrigue. Hein. Je me suis posé la question. Ça risque de pas être tout à fait simple. Disons quand même que le docteur Petit Pont est entraîné par un de ses camarades, Mongicourt, qui va, ce qu'il ne fait jamais, faire la fête toute la nuit. Et faire beaucoup de choses toute cette nuit-là. Tant si bien que le lendemain matin, retrouve son ami Petit Pont endormi sous un canapé, enfin le canapé ayant été renversé, et sort du lit la môme crevette, cette danseuse du Moulin Rouge. Et puis pour ne rien arranger, l'oncle fortuné de Petit Pont va arriver et va croire que la môme crevette est Madame Petit Pont, ce qui n'est, vous l'avez compris, pas le cas. Je crois que je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, tous les quiproquos et catastrophes sont possibles. On n'a pas d'extrait de cette production, donc je vais tout de suite vous demander ce petit tour de table pour résumer votre sentiment, commençant par Lily Bloom.
Moi, je dirais que c'est une très joyeuse kermesse.
Je ne sais pas comment on doit l'entendre. Marie Sorbier.
C'est un spectacle qui a été conçu de A à Z pour passer une soirée divertissante au théâtre.
Lucille Comeau.
Pour moi, c'est un ratage, faute de rythme et d'une interprétation du texte.
Bon,
c'est
allez.
C'est quand même la base.
Qu'est-ce qu'on voit? Comment ça joue? Quelques petits éléments que nous donne Lily Bloom.
Alors, donc, lorsque la pièce s'ouvre, il faut savoir qu'on est tout de suite dans un décor en carton-pâte, revendiqué, en trompe-l'œil. On est dans la parodie de décor. Alors, c'est signé...
Décor à l'ancienne.
À l'ancienne, de décor à l'ancienne, parodique. Alors, on est dans des teintes entre cacadois et marron. Et elle va beaucoup s'amuser avec l'artificialité de ce décor dans les trois actes. Alors, après, un deuxième acte à la campagne, où elle va s'amuser avec de grandes toiles peintes de forêt ou d'arbres, enfin, je ne sais plus... On va revenir à ce décor qui va être de guingois. Elle va même s'amuser avec toute la machinerie du théâtre. Il y a l'acteur principal, Michel Escaut, qui va à un moment tirer une guinde et ça va faire apparaître les coulisses du spectacle. Enfin, elle s'amuse beaucoup avec ce décor-là. On est tout de suite dans le cœur du sujet. On est dans la chambre de Monsieur Petitpont, l'homme qui a fauté ce douceur occasionnel. Tout est en désordre. Ça annonce le cauchemar à venir. Donc il y a une sorte de petite chambre dans la grande chambre et de petit théâtre dans le grand théâtre. C'est la petite pièce cachée qui cache évidemment la môme crevette derrière des rideaux et dont elle va beaucoup s'amuser de ce petit espace. Et voilà, il y a le décor, il y a un côté, donc à jardin, ce sont tous les... Il y a des grandes ouvertures, on y rentre comme dans un bordel dans ce décor. C'est d'un côté à jardin, ce sont des irruptions de personnages et une petite trouvaille qui est toujours marrante et qui fait un bel écho au vertige Fedot, c'est qu'il y a donc cette porte à court qui finalement aspire les personnages. On sort par là beaucoup plus à l'horizontale qu'à la verticale et on a beaucoup de mal à revenir, et ça c'est plutôt une belle trouvaille. Et donc Zabou Breitman, finalement, son plus grand choix de metteuse en scène, c'est vraiment les acteurs, son casting, on va dire. Il y a vraiment des acteurs de haut vol. Et après, j'ai un peu du mal à dire ce qu'elle veut réellement faire, parce que j'ai l'impression que c'est assez foutraque. Il y a un amusement... à un moment, il y a une scène de cap et d'épée mimée, et justement, je trouve que elle s'amuse beaucoup, mais parfois, on s'amuse plus sur scène que dans le public, parce que ces aspects-là font perdre de vue et d'oreille la mécanique implacable du rire chez Fedot, qui se suffit en elle-même, et on en perd les enjeux, et surtout, alors même si c'est très généreux et je pense très ludique, il y a un côté très théâtre qui en fait perdre la dimension cruelle, et moi, c'est ce que j'aime en fait dans Fedot, c'est quand ça bascule dans la cruauté, quoi.
Ce qu'avait très bien fait Alain Françon il y a quelques années, oui, avec l'hôtel du libre-échange. C'était le temps de la
colline. Pour le coup, il avait fait extrêmement bien.
Ça grinçait beaucoup. Enfin, lui, il allait vraiment vers l'expressionnisme allemand, quoi, quasiment. C'était encore une autre histoire. Vous disiez tout pour réussir une soirée divertissante. J'ai pas l'impression que vous ayez été très diverti, vu la tête que vous faisiez quand Lily s'exprimait.
Non, c'est vrai. C'était un peu ironique, mais j'ai quand même eu l'impression d'avoir affaire à un spectacle marketé, au sens où on cochait les cases pour qu'un certain public puisse être content de sa soirée. Alors, je m'explique peut-être juste en trois points. D'abord, choisir Fedot. Cette pièce-là particulièrement, qui est certainement la plus connue.
Et la plus comique.
Qui est la plus comique.
La moins grinçante, pour le coup.
Qui marche quand même très bien. On a beau dire, je me suis quand même surpris à sourire au moins deux, trois fois, ce qui est quand même assez rare, je tiens à le souligner. Donc,
Marie-Sorbier ne sourit jamais.
Jamais. Rien ne me fait rire. Donc là, je me suis quand même...
Il n'avait pas d'humour en même temps.
Jamais, aucun. Et donc, je me suis dit, il est fort, Fedot, d'arriver à ça. Donc, la fameuse mécanique fonctionne à quelques moments, assez peu, faut dire, mais disons que je comprends son choix dans le principe de cette soirée marketée d'avoir choisi Fedot. Deuxième point, Zabou Breitman qui ne prend aucun risque dans la mise en scène, c'est-à-dire qu'elle campe un décor réaliste, tout colle à l'image d'Épinal qu'on pourrait se faire d'un Fedot. Voilà. Et pareil pour les acteurs. Alors, elle a une distribution super, qu'elle s'est vraiment choisie. On sent qu'elle s'est fait plaisir. Mais chacun joue dans leur rôle. Alors, ils font ça bien. Michel Escaut, il est toujours dans cette espèce de grand échelat, comme ça, un peu dégingandé. Enfin, dégingandé,
j'aurais dit échelat, moi aussi, mais c'est tant qu'à faire.
On peut dire ça comme ça. Ouais. Ils sont chacun dans leurs caractéristiques de comédien. Donc, il y a vraiment... Aucune prise de risque là-dessus non plus. Et l'ensemble donne un spectacle absolument sans saveur, qui roule, mais qui ne procure aucune émotion.
Oui, parce que ne pas prendre de risque, c'est une chose. Moi, j'ai pas vu ce spectacle encore. Ne pas prendre de risque, c'est une chose. Mais si on a un bon texte, qu'on a une mise en scène, alors qu'ils ne cherchent pas la nouveauté à vous entendre, et des comédiens qui font ce qu'ils savent faire, ça devrait quand même fonctionner.
Ça pourrait fonctionner.
Des gens passent un très bon moment, la plupart des spectateurs.
Sur le papier, il y a tout pour que ça fonctionne. Je crois, après, qu'il y a un manque de confiance dans le public. C'est-à-dire que, comme si, encore, je reviens à cette histoire de cases, mais comme si on avait voulu tellement cocher les cases pour que ce soit efficace et divertissant, finalement, on en arrive à quelque chose d'un peu vidé de son suc.
Lucille Comeau.
Non, puis encore faut-il quand même réfléchir au texte. Moi, je pense que Fedot, c'est pas facile de jouer Fedot aujourd'hui, et c'est certainement pas comme ça qu'il faut le faire pour entendre ce qu'a pu être la charge ou même le type de comique de Fedot au moment de l'écriture. Donc là, en effet, vous parliez de décors parodique. Moi, je crois qu'il n'y a rien de parodique dans le fait de camper la bourgeoisie de l'époque d'écriture, pour le coup. Ça donne quand même quelque chose d'assez poussiéreux. Phédo, c'est un argot, donc c'est une langue qui est extrêmement datée. La jouer avec un accent de titi parisien, pour en rajouter là-dessus, je trouve ça très problématique.
Mais il faudrait croire écrire.
Non, faudrait pas réécrire, faudrait le faire dire autrement. Tout simplement, la môme crevette, c'est Léa Drucker, c'est une excellente comédienne. Elle est habillée comme une danseuse du Moulin Rouge. Elle fait une sorte de numéro de clown extrêmement daté. Moi, ça me fait pas du tout rire. Et par ailleurs, c'est quand même un personnage qui se met dans l'histoire à chanter une chanson sur une prostituée parisienne en plein milieu d'un mariage bourgeois qui s'appelle La Marmite à Saint-Lazare. C'est le moment de La Dame de chez Maxime. Il faut trouver un moyen de le mettre en scène, ce moment-là, parce que déjà, La Marmite à Saint-Lazare, ça ne veut plus rien dire pour un spectateur d'aujourd'hui. Donc, il faut trouver quelque chose pour compenser l'écart de la langue, enfin l'écart de l'argot, l'écart des références. Ce n'est pas du tout le cas.
Il faudrait chanter du PNL.
Donc, en fait, les gens... Non, ce n'est pas forcément changer le texte, encore une fois. Pour le coup, c'est un travail de mise en scène et donc d'interprétation du texte, de dramaturgie. Là, vraiment, on sent qu'il y a zéro dramaturgie. Moi, vraiment, l'accent parisien, ce n'est pas possible. Moi, l'accent de Titi Parigot par-dessus ce texte-là, pour moi, ça a un non-sens. Ça, je ne vois pas l'intérêt. De la même manière que il y a un gros problème de rythme, c'est quand même vachement rythmé, La Dame de chez Maxime. Là, ils sont, en fait, c'est simple, ils sont déjà complètement à fond dès le lever de rideau. C'est-à-dire que Michalesco, que en plus moi j'ai un petit peu de mal avec son jeu, il est déjà complètement surex avec les voix qui montent dans l'aigu, il est survolté, il a déjà les cheveux qui partent dans tous les sens et les jambes qui partent dans tous les sens aussi.
Il sort d'une drôle de nuit,
mais
faut
mais
dire.
Ça va pas en fait, parce que du coup il y a aucune progression. La question de la subversion ne se met pas en place parce que comme il n'y a pas de progression, il n'y a pas de tension. Donc la question de cette espèce d'intrusion de la môme crevette qui est censée quand même foutre le gros bordel dans la bonne société, en fait ça fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de tension. Donc les gens se marrent. Ah ouais, alors là ça se bidonne mais à mort. Moi le soir où j'y étais, c'est se bidonner, mais ça se bidonne à des ciels mon mari et que je t'ouvre un placard. C'est pas possible.
Alors Lucie Comeau n'a plus de filtre, hein, dès que ça... de Phédo, là, ça y est, on entend la vraie, celle qu'on entend au bureau.
Alors moi, j'ai pas vu de bon Phédo, je comprends pas ce qui se passe avec Phédo, là, c'est au cinéma, il y a à nouveau au théâtre de la Comédie française.
C'est compliqué parce que ça rassure, en fait, entre guillemets, les productions, etc., parce qu'il y a cette écriture.
Rassurer les gens avec Phédo.
Ça tape du poing sur la table, là, ça y est, on
en est là. Il y avait eu la version de Sibadier, je sais pas si...
Il me semble bien que Nora Krief avait l'accent titi parisien.
C'est possible, en 2000...
Mais j'ai pleuré de rire.
2007, mais quand même, il y avait...
Ah, moi j'ai pleuré de rire,
quelque chose
à cette dame de chez Maxime.
Et... Déjà de beaucoup plus contemporain dans le traitement.
Oui.
Par rapport à ce qu'a fait Zabou Breitman, si on peut comparer.
Oui. C'était du Sivadier, donc.
C'était du Sivadier.
C'était pas des décors en carton-pâte.
Comme quoi on peut quand même essayer de monter Phédo autrement que du carton-pâte et des crinolines. C'est quand même.
Oui, bien sûr. Et encore une fois, on parlait de Françon tout à l'heure, sur l'hôtel du libre-échange. C'était dur. Par contre, Françon, entre-temps, je me suis souvenu qu'il avait quand même raté des petits Phédo. Il avait fait trois petites pièces de Phédo, de Promène nos packs tout nus, On purge bébé, etc. au Théâtre Marigny, avec des corps carton-pâte, avec une très bonne distribution, et ça n'allait pas du tout. Comme quoi...
Mais je pense que c'est très très difficile.
Non, mais je suis d'accord avec vous, Lucie.
C'est hyper difficile. Mais c'est un texte qui est justement tellement difficile à monter qu'on ne, à mon avis, on ne peut pas faire l'économie d'un vrai travail sur le texte, sur la signification socio-culturelle du texte à l'époque et sur ce que ça peut engendrer comme type de tension aujourd'hui. Et je pense qu'on peut vraiment pas faire l'économie.
Et aux Français, c'est quelle pièce qui se donne ou va être donnée, à commencer déjà, à être donnée.
Oui, à commencer, c'est bon. Je sais plus.
C'est la puce à l'oreille.
Oui, c'est la puce à l'oreille, oui, tout à fait.
Mais c'était pas déjà Jérôme Deschamps qui avait fait la puce à l'oreille? C'était pas celle-là?
Ah si, il l'avait fait.
Ah bah oui,
il
c'était formidable. Ah, ils refont une production. C'était un fil à la pâte. Merci Lily. Lily Sorbier, j'allais vous appeler du coup.
Très bien.
C'était un fil à la pâte qui était, alors moi je trouve un exemple quand même de comment monte Phédo. D'une certaine façon, premier degré, mais avec toute la folie des personnages, cette mise en scène de Jérôme Deschamps qui peut-être se jouera encore, pour moi, je la trouvais impeccable, justement. Lucille Comeau?
Moi, je trouve qu'il y a un personnage qui s'en sort, et c'est grâce à l'acteur, c'est le personnage de l'oncle qui est joué par André Marcon, parce que mais vraiment contre les autres presque, ce qui peut être intéressant en soi. Il amène une forme de classicisme, de barbon justement qu'on pourrait voir chez Molière ou dans le théâtre.
Il fait ça bien, Marcon. Il fait beaucoup de choses bien.
Ouais, mais du coup ça marche parce que là ça décale un tout petit peu, ça donne un tout petit peu de grain à moudre et de texte à entendre parce que les autres ils sont en roue libre. Et puis en effet ça joue beaucoup pour soi, l'espèce de scène de duel à l'index sur une musique hollywoodienne alors qu'il y a très peu de musique, ça n'a aucun sens. C'est de la la pitrerie, en fait. C'est du pittoresque et de la pitrerie. Et tous ces numéros-là n'ont aucun sens pris les uns avec les autres.
FH, c'est Lucille Gaumont. Ah ouais, ça vous a énervé, cette soirée.
Quand je disais qu'elle mettait aussi en scène par son choix d'acteur, par exemple, l'actrice qui joue la femme de Petit Pont, Anne Roger, on dit Roger. Je trouve qu'elle a amené une dimension, par exemple, que j'avais jamais entendue. Parce que le très grand sérieux avec lequel elle joue son zèle et sa grande innocence, d'un seul coup, je trouve qu'elle rebasculait les dynamiques entre les personnages et que vraiment on pouvait entendre cette partition-là de femmes. Et finalement, on se disait que ça parlait aussi de ça, la pièce, de l'innocence travestie, endommagée par l'hypocrisie des autres, la petitesse des autres. Et c'était assez beau. Je trouve vraiment son interprétation est magnifique.
Lucille Gaumont a encore des choses à dire.
Il y a vraiment un moment qui est très, très révélateur, je trouve, du rapport qu'elle veut instaurer avec le public. C'est que pendant ce mariage, il y a un moment chanté, dansé par tous les convives. Et ils font une sorte de farandole qui passe évidemment entre les gradins, donc lumière dans la salle. Et donc en fait, on est invité à tous communier dans la bonne fête bourgeoise, un peu paillarde sur les bords parce que c'est rigolo. C'est vraiment la chenille qui redémarre. Franchement, moi je me suis vraiment dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut nous dire? En fait, Fedo, c'est beauf, quoi. En fait, c'est ça. Je comprends pas.
Marie Sorbier, un petit mot, un petit dernier quand même pour.
Vous voulez dire un petit mot baume. Je crois que là, peut-être que la principale erreur, mais ça va être positif après, c'est que le duo, en effet, Michel Escaut, Léa Drucker, tire tout le reste de la distribution vers un côté clownesque. Et clownesque exagéré. Ils vont vraiment dans des recoins. Ils vont chercher le rire chez le spectateur, ce qui n'est jamais bon signe. Et. Peut-être que finalement, il fallait faire plus confiance dans cette mécanique fédalienne qui se suffit à elle-même, sans aller chercher comme ça les rires de tout le monde. Et ça aurait été peut-être plus entendable par un public un peu plus élargi que celui qui vient à la Porte Saint-Martin le samedi soir en famille. Parce qu'il y a quand même cet aspect-là, c'est une pièce qui peut être vue avec ses enfants, en famille. Et c'était le soir où j'étais vraiment un public totalement familial, parisien, qui sort au théâtre. Et ils passaient tous un très bon moment, mais je crois qu'on aurait pu leur donner une épaisseur supplémentaire sur ce texte de Fedo qui là n'y est pas.
Belle intervention, vous avez quasi fédaldienne, ça c'est assez beau. Entendable, là c'est nettement plus discutable, la Marie Sorbier. Mais bon, vous reviendrez quand même. La Dame de chez Maxime se joue jusqu'au 10 novembre. Il va falloir que je fasse une pondération de tous les avis pour savoir si je me rendrai voir cette mise en scène de Zabo Breitman au théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est l'heure du coup de cœur de Marie Sorbier pour un des nouveaux spectacles, il en fait régulièrement, de Christophe Varikovsky, un spectacle qui sera donné prochainement au Théâtre de Chaillot à Paris du 13 au 16 novembre. C'est un spectacle qui cette fois est avec sa troupe.
Exactement, les acteurs polonais, mais la troupe renouvelée, puisque ce sont les plus jeunes qui ont pris le relais au Novi Théâtre maintenant.
Oui, parce que Christophe Varikovsky a une théorie là-dessus, on garde les acteurs le temps qu'on garde un chien. Non, c'est une durée de vie comme ça pour que l'amour continue et que le désir soit partagé.
Très fort, c'est
Donc, on s'en va. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'abord des retrouvailles entre Christophe Varlikovski et Hanoch Levin. Hanoch Levin, c'est le dramaturge israélien certainement le plus connu, en tout cas en France, qui est mort en 1999 et qui a écrit toute une série de pièces de théâtre où... je dirais l'absurde se dispute au cocasse et au drôle, avec quand même toujours un côté très grinçant. Christophe Varlikovski avait déjà monté du Hanoch Levin avec un Kroum, je crois, qui était quand même
extraordinaire.
Voilà, extraordinaire.
Ça, c'est le plus grand souvenir de théâtre tout court.
Ah oui.
Dieu sait que j'en vois.
Ouais, c'est beau.
Ouais, avec Kroum.
Mais qui avait beaucoup marqué les esprits. En effet, beaucoup de retours comme ça, assez dithyrambiques sur cette pièce. Donc, il revient quelque part à ces amours-là. Et il revient avec une simplicité et une lisibilité qui a fait du bien à tous ses spectateurs. Et c'est pour ça que je voulais absolument en parler. Les derniers spectacles de théâtre de Christophe Varlikovski que moi je trouve particulièrement intelligent et brillant dans sa dramaturgie, était quand même un peu complexe parce que c'était quand même le pape du mélange de textes un peu improbable et où on avait parfois
avec toujours
du
Elisabeth Costello de Coetzee dedans.
Exactement.
Mais un peu de Kafka. Un peu de
mélange un peu comme ça. Oui. Et Emma Wade, qui là, pour le coup est le seul qui l'a gardé. Mais sur ce spectacle-là, c'est le texte d'Anouk Levin en entier, avec juste une incursion de Wajdi Mouawad qui prolonge un personnage qui existe déjà dans la pièce originale, mais qui en fait quelque chose de très contemporain. Et c'est une des grandes réussites de ce spectacle, c'est ce prolongement de personnage. La pièce originale s'appelle « Sur les valises, comédie en 8 enterrements ». Ça dit à peu près tout, puisque c'est exactement ça ce spectacle. On est dans une petite communauté à Tel Aviv dans le texte et puis à Varsovie dans la mise en scène, de gens qui vont s'éteindre les uns à la suite des autres pour des raisons diverses et variées, dans un temps limité que Varlikovski fait durer un peu plus longtemps. Et donc la mise en scène est rythmée par les enterrements de chaque membre de cette communauté. Ce n'est pas sans rappeler cette fameuse série Six Feet Under de l'époque. D'ailleurs, la fin du spectacle, que je ne révélerai pas, est un hommage au dernier épisode de Six Feet Under.
Ah, carrément.
Ah oui.
Ah ouais.
C'est assez prodigieux, cette pièce. Et juste deux points incroyables sur ce spectacle. Donc, cette lisibilité qu'on avait peut-être perdue sur les derniers spectacles de Varlikovski et qui avait un peu freiné peut-être certains spectateurs. Le spectacle est plus court, il dure 3 heures et
c'est
quelque chose au lieu des 5 ou 6 heures qu'on a eu auparavant, c'est quand même plus accessible. Et puis, un travail du son que je n'avais jamais entendu sur aucun spectacle de théâtre. La bande-son est omniprésente, donc pendant ces 3h15 ou 3h30 de spectacle. Elle est omniprésente et ça devient un vrai personnage de l'intrigue, sans jamais prendre le pas sur quoi que ce soit, sans jamais surligner, sans jamais être... autre chose que le personnage qu'il a voulu créer avec cette bande-son, et c'est un travail de dentelle incroyable qui, moi, m'a fascinée alors, pendant vraiment tout ce spectacle.
Et ces plus jeunes interprètes sont, j'imagine, aussi bons que les anciens.
Ils sont incroyables. La troupe polonaise est quand même
assez
folle. Ils ont des physiques incroyables. Ouais. Ça aussi, c'est à signifier. On a des physiques sur scène qu'on voit peu. Il y a des femmes âgées qui sont autant nues que les éphèbes qui, souvent, comme ça, errent sur les plateaux de Varlikovski. On a des corps comme ça en puissance. C'est un spectacle qui est très physique. Les corps sont très présents. Tout se magnifier d'une façon particulière. Et évidemment, c'est un spectacle incroyablement esthétique, mais ça, comme toujours chez Varlikovski, avec une scénographie folle et des lumières complètement dingues. C'est une vraie aventure de théâtre. Et je trouve qu'on va beaucoup au théâtre, mais on a peu de théâtre au théâtre. Et là, j'ai eu un plaisir de spectateur de théâtre et de revoir du théâtre sur la scène. Donc, ça fait du bien.
Ah, ça fait du bien et ça donne très très envie. Du 13 au 16 novembre, on pourra voir ce spectacle de Christa Varlikovski. On s'en va, d'après Anouk Levin, au Théâtre de Chaillot à Paris.
France Culture, La Dispute, Arne Laporte.
Le dernier spectacle à notre affiche ce soir, dévoilé. Mise en scène de spectacle signé Richard Maxwell au Théâtre de la Commune d'Aubervilliers jusqu'au 6 octobre. Oui. Marie-Josée Malice, la directrice de ce Centre Dramatique National, a donc créé cette collection, les pièces d'actualité. Une invitation en fait aux artistes de répondre à cette question. La vie des gens d'ici, qu'est-ce qu'elle inspire à votre art? Dévoilée, c'est donc la 14e pièce d'actualité. On va entendre dans ce court extrait trois comédiens qui font le récit de Boulaye, jeune migrant sans papier, originaire de Gao, au Mali, et qui vit maintenant à Paris.
Boulaye arrive enfin à Paris, sans argent, sans vêtements, à part ce qu'il porte. Et un numéro de téléphone qui est écrit sur son avant-bras, mais il n'a pas de téléphone. Il arrive à appeler ce numéro de téléphone et la personne qui répond lui donne rendez-vous. Cette personne permet à Boulaye de vivre avec lui pendant quelques jours. Il n'est arrivé lui-même que quelques mois avant Boulaye. Boulaye apprend rapidement qu'il doit continuer à voyager seul. La clé de la survie semble être de continuer à se déplacer. Ne restez pas à un endroit pour trop longtemps. En attendant, il commence à comprendre qu'il doit demander l'asile.
Il commence à chercher du travail à Paris, mais sans papier et sans visa. Il doit travailler au black. Boulaye voit une ville qui ne lui appartient pas. Il apprend qu'il y a un endroit qui s'appelle Aubervilliers. Il y a un foyer de travailleurs. Et il va en passant pouvoir trouver un lit ou une chambre. Il est accueilli. Et on lui donne un endroit pour dormir. mais seulement pour une nuit. En attendant, pendant qu'il essaie de se construire une vie ici, sa famille au pays l'appelle et a besoin de son aide. Il veut leur parler parce qu'il lui manque, mais il reconnaît aussi les limites de sa capacité à les aider. Parfois, il ne répond pas à leurs appels.
Voilà pour cet extrait de cette pièce d'actualité numéro 14 dévoilée. Moi, c'est un programme que je trouve très souvent passionnant. Là, j'ai pareil, pas pu aller voir ce spectacle pour des raisons d'horaire et d'agenda, car on ne peut pas être partout au même moment. Hélas, j'ai très hâte que vous nous disiez s'il faut aller voir ce spectacle. Un premier rapide tour de table, Marie Sorbier.
Moi, j'ai trouvé que c'était une vraie réussite théâtrale sur un terrain qui était pourtant miné.
Oui. Lucille Comeau.
C'est un spectacle dont la force tient vraiment à la simplicité et à sa fragilité aussi.
Et Lily Blum.
Oui, je trouve que c'est un spectacle qui met en mouvement la pensée. Ah ben, très vivifiant.
Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Marie Sorbier, comment Richard Maxwell a donc répondu à cette question posée par les pièces d'actualité?
Alors, il faut peut-être préciser que quand Marie-Josée Malis prend la direction du théâtre de la Commune, donc en 2014, elle argumente son projet autour de deux notions, qui est un, incarner un théâtre pour tous, et deux, une profession de foi dans l'égalité de tous devant la beauté. Face à ces deux constats, profession de foi, elle propose deux structures. Une qui s'appelle pièce d'actualité, c'est-à-dire intégrer dans la programmation des pièces avec des gens d'Aubervilliers, et elle invite des metteurs en scène pour les mettre en scène, donc cette fois-ci Richard Maxwell. On a eu avant Maggie Marin ou Rimini Protocol, elle invite plein de gens très différents pour proposer des spectacles un peu différents. Il y avait eu d'ailleurs Olivier Coulon-Jablonka, qui s'était retrouvé au Festival d'Avignon après avoir présenté cette pièce d'actualité.
Julie Berès,
Désobéir,
a pas mal tourné depuis.
Exactement.
Été repris.
Donc là, nous en sommes à la 14e. Et il y a un deuxième procédé qui est lié au premier, qui s'appelle l'école des actes. Et l'école des actes, c'est un lieu de rencontre qui s'articule autour de trois points. La pratique du théâtre, le travail de la langue française, et puis des assemblées de prise de parole collective où tous ces jeunes se retrouvent ensemble et essaient de se réapproprier les questions qui leur reviennent. Richard Maxwell, quand Marie-Josée Malis lui propose ce projet, décide de s'appuyer sur l'école des actes. Donc les acteurs qu'on a sur scène font tous partie de cette école qui a été créée en 2017. Et la question qu'il leur a posée, c'est: si on vous donnait les clés du théâtre de la Commune, que feriez-vous avec ce bâtiment? Et le spectacle qu'on a vu, en fait, se base sur les réponses que ces jeunes ont données suite à cette question.
Et donc que Richard Maxwell a... quoi, interrogé, mis en forme ensuite.
Alors c'est ça qui est assez étonnant, c'est que...
Quelle forme ça prend?
C'est une narration, c'est-à-dire c'est un récit, donc on suit l'histoire de ce jeune homme, de son village natal, à la traversée de la Méditerranée, jusqu'à son arrivée à Aubervilliers. C'est une suite linéaire, vraiment un récit parlé avec tout ce que peuvent apporter les gens qui l'ont vécu. Donc on est sur des scènes dialoguées qui sont à la fois naïves d'un côté et en même temps... très juste, forcément juste, puisqu'elles viennent d'expériences qu'ils ont vécues il n'y a pas si longtemps.
Lucille Comeau, peut-être pour en savoir et comprendre un peu mieux, parler peut-être des interprètes qui sont sur le plateau, du lieu.
De l'espace, parce que c'est vraiment là que ça se joue. Les interprètes, ils sont une petite dizaine, et ils parlent tous d'un personnage, c'est ce qu'on entendait tout au début, là, c'est le début de la pièce, qui s'appelle Boulaye, et là c'est un des grands tours de force qui apparaît assez vite, c'est que ce Boulaye, il n'est pas là. Il n'est pas sur scène. Et il est en permanence au centre. C'est lui qui part de Gao pour, en effet, qui quitte sa famille pour rejoindre l'Europe. Et les autres personnages lui parlent. Alors, ils sont successivement sa famille, un vendeur de bijoux à qui on vend les bijoux pour avoir l'argent pour le passeur. Un passeur, évidemment. Toutes les étapes qu'on connaît, parce qu'on en parle et qu'on les lit dans les journaux, sont là d'une manière extrêmement sommaire. Vous parliez de naïveté, en fait c'est une naïveté qui est construite sur un théâtre, avec donc cette narration qui avance de manière implacable et qui montre à la fois l'extrême simplicité du désir de partir et le niveau d'injustice à l'inverse de ce qui se passe par la suite. Ça va, l'esclavage en Libye, l'arrivée en Europe par un train, puis de l'Italie, d'un camp de rétention en Italie à la France. Et cette mise en espace En fait, j'ai du mal à en parler parce qu'il y a un tour de force au milieu qu'on peut peut-être pas tellement révéler, mais ce qu'on peut dire, c'est que le spectateur est très très inconfortable.
Plus grand monde.
Bon, alors déjà, on est dans la lumière tout le temps, ça c'est un truc
c'est chez Marie-Josée Maïlys,
donc ouais. On est tout le temps dans la lumière, donc on ne peut pas échapper au regard que ces hommes-là ont sur nous. Voilà. Donc ça met quand même dans un état particulier quand ça touche à ces thèmes-là. Par ailleurs, au milieu, on est obligé à un moment donné de se retourner et de supporter quasiment un tiers du spectacle en étant, je peux pas faire le geste, j'allais le faire,
radio,
ça
ne
sert à rien, en étant vraiment en tordant, en étant mal, donc on finit par se dire bon bah je regarde la scène mais il y a plus rien dessus, donc ils sont dans mon dos, mais c'est insupportable d'entendre ces gens parler des choses dont ils sont en train de parler sans les regarder, donc ça met dans un état d'inconfort absolu jusqu'à la fin qui est vraiment, enfin, moi qui m'a absolument bouleversée, la fin elle est spectaculaire, vraiment spectaculaire, alors il n'y a pas grand-chose, quoi. Et bon, c'est vraiment, on n'a pas encore parlé du spectacle de Christiane Jatahi, on en a un tout petit peu parlé quand il s'agissait du Festival d'Avignon, qui elle aussi invitait des migrants à venir
déborde,
sur scène,
à
présenter,
bientôt.
Voilà, à présenter leur propre parcours. Là, c'est presque troublant, parce que c'est exactement la même chose, mais c'est mais d'une force, mais démultipliée, enfin, ça décuple absolument la possibilité de raconter cette histoire-là sur une scène de théâtre, et c'est tout simplement en faisant confiance à les espace du théâtre, juste en utilisant vraiment l'espace du théâtre.
Lily Blum, sur cette pièce d'actualité.
Oui, en utilisant même des décors déjà utilisés. Enfin, il y a une récupération, c'est vraiment, on prend le théâtre tel qu'il est en l'état, quoi. Dans ce qui est intéressant, effectivement, et il faut aller voir ce spectacle, parce que, comme je le disais, il réactive la pensée. Moi, je me suis posé des questions pendant ce spectacle, même des questions qui sont en apparence très idiotes. Pourquoi ne prennent-ils pas l'avion ? Par exemple, et qui en fait ont des ramifications très complexes, je vous invite à chercher. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est la prise de parole. Ce qui est très beau, c'est qu'il anéantit l'illusion théâtrale. On voit des corps que l'on voit ou que l'on ne voit plus dans la rue, sous le
à
Port de la Chapelle, à Aubervilliers, ce sont vraiment des migrants qui sont là et qu'on ne voit plus quand on passe en voiture. Et il les amène tels quels sur scène. Alors il y a une première déstabilisation et il en parle, il dit « je veux défier la classe esthétique qui finalement a l'habitude d'aller au théâtre, d'entendre une façon de faire du théâtre et qui s'accroche à ses habitudes ». Et d'un seul coup, on est un peu déstabilisé parce qu'il y a ces corps tels quels avec une lumière frontale, avec effectivement une difficulté... parfois même à dire son texte, il y a une fragilité, ça se rapproche beaucoup de Bruno Dumont finalement. Il y a des accidents d'être, des accidents de texte, on pourrait se dire ah en fait c'est quand même pénible d'entendre, mais non pas du tout. Ça amène une écoute très intéressante pour soi. Et lorsque, avec des moyens de mise en scène très simples, mais en même temps lumineux, comme effectivement nous forcer à nous retourner, donc d'être dans une position d'inconfort physique, il nous amène à lever les yeux vers eux au lieu de les baisser vers eux. Et bien d'un seul coup, le spectacle devient lumineux et on se sent vraiment envahi par une humanité, par un regard différent. Et pourtant, c'est vrai que l'histoire est simple. C'est une histoire de migrants comme on en connaît plein d'autres. Mais là, par la cohérence absolue de tout le propos et par aussi la présence, par exemple, quand je disais l'illusion, il anéantit l'illusion théâtrale, il y a aussi des migrants dans la salle qui regardent gratuitement ce spectacle avec nous, qui parfois nous regardent en tant que spectateurs, regarder ce spectacle sur leur histoire. Et donc, d'un seul coup, on se prend un choc de réalité et il faut y aller. Vraiment.
Il faut y aller, moi, disons-le, parce que, encore une fois, oh là là, les migrants encore.
Rien à voir.
Oui, non, voilà. Et puis à Aubervilliers, il faut y aller, etc. C'est tout près, la
théâtre
de la commune.
C'est un sujet.
Donc, j'ai envie que vous insistiez.
Mais oui, parce que c'est un sujet, c'est vrai, qui est difficile à.
On le voit tellement mal traité.
Voilà, parce qu'on l'a vu beaucoup, très mal traité. Et là, c'est là où on voit que Richard Maxwell est un grand metteur en scène. Il faut quand même dire que sur ces pièces d'actualité, il y a 3 semaines de répétition. C'est la règle pour tout le monde. Donc, ce qui est un temps de répétition très court avec des non-acteurs professionnels. Donc, il accumule quand même une certaine difficulté. Et puis, il arrive avec quasiment rien, à part ce thème de dévoiler qu'il avait envie de traiter. Mais c'est quand même les gens qu'il a rencontrés sur place qui ont écrit le spectacle avec lui. Donc, il faut penser que tout ça a été fait en 3 semaines, ce qui montre quand même à quel point il maîtrise, j'allais dire, l'art théâtral et qu'il arrive. Je suis complètement d'accord avec vous, Lucille. C'est qu'on voit du théâtre dans le sens le plus noble du terme, avec les machines qui se mettent en marche. Alors on va pas dévoiler pourquoi, parce que c'est en effet les scènes finales sont extrêmement belles. Elles sont belles et émouvantes, c'est-à-dire qu'on enchaîne entre un monologue qui est particulièrement, je trouve, bien écrit et très senti et très proche des émotions qui sont en train de se passer là, et on sent dans la salle où tout, il y a un moment de silence incroyable où on écoute ce garçon sur ce monologue final, et un enchaînement visuel et esthétique de l'outil théâtre en marche, et les deux comme ça nous emmènent vers une vision haute de ce sujet que je n'avais pas eu dans aucun des autres spectacles qui avaient certainement pris beaucoup plus de temps et beaucoup plus de recherche.
Lucille, comment ?
Oui, ce qui est fort, c'est qu'il n'y a pas de mystique. C'est souvent une sorte de biais qui est utilisé pour traiter de ces sujets-là, comme s'il y avait besoin de les anoblir ou de les complexifier dans la forme. Là, en fait, ça joue sur la matérialité du théâtre. Et c'est très fort, je trouve, dans cette salle qui est en plus particulièrement... Moi, je la trouve très intéressante d'un point de vue presque physique, la salle d'Aubervilliers. Ça pourrait marcher dans n'importe quel autre théâtre. C'est juste cette lumière crue sur des poulies, sur des toiles. On entend tout, les petits bruits de mécanique, tout ça est une confiance absolue dans la mécanique théâtrale, donc dans très simplement ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre. Et on fait confiance à ça, on a en effet que 3 semaines, on a des gens qui sont pas des professionnels du théâtre, et ça fonctionne. Il n'y a pas plus d'artifice que ça, c'est tout simple.
Lily Blum à nouveau.
Oui, ça fonctionne. Et je sais plus ce que je voulais dire. J'étais en train de réfléchir. Mais voilà, c'est déjà l'essentiel. Encore une fois, j'étais encore en train de réfléchir sur le sujet. Non, je ne sais pas. J'étais en train
de... Oui, je vous ai... Non, mais je sens en plus une émotion particulière.
Oui, il y a une émotion. Alors, c'est difficile de ne pas pouvoir la partager, mais...
C'est difficile de la partager aussi.
De ne pas pouvoir raconter pourquoi.
Ce qui est beau aussi, je trouve, c'est l'effort partagé. C'est-à-dire qu'il y a un effort du spectateur sur les premières minutes où il faut faire un effort dans l'écoute de ces gens qui parlent un français qui n'est pas fluide et qui font l'effort, eux, de parler français et de se présenter devant nous alors qu'ils ne sont pas comédiens. Et ce double effort, je trouve, qui est partagé, en effet, en pleine lumière, puisque c'est le principe de la commune, il y a quelque chose de très beau qui se noue, je trouve, à ce moment-là. La première scène, c'est rideau fermé, et puis tous les comédiens arrivent les uns après les autres et ont 2-3 minutes de monologue chacun pour camper l'histoire qui va se passer en quelques phrases. Ça ressemble presque à du Didier Ruiz sur le côté complètement frontal, avec la douche au-dessus, et puis on les entend parler. Et c'est là où l'effort se crée, en disant, oula, si ça dure 1h30 comme ça, devant ce rideau fermé, avec ces gens qui vont nous raconter, ça va être difficile.
Ouais.
Et c'est là où il est fort, c'est qu'il sait très bien ce qu'il est en train de faire, on est tous en train d'essayer de se concentrer sur ce premier quart d'heure en disant...
Du coup, il y a une qualité d'écoute.
Qualité d'écoute, on est là, on a fait l'effort pour eux, et eux font l'effort de jouer ce spectacle pour nous, et ce lien-là, il est quand même très beau et il fonctionne.
Ce que je voulais dire,
mais c'était donc effectivement, à partir de ce point de tension, ce qui est beau aussi, c'est qu'il n'y a pas de pathos, entre guillemets, on est dans des actions très concrètes. Quand ils parlent de leur migration, c'est vraiment par les éléments de « si tu donnes plus d'argent, tu vas avoir une Mercedes, sinon ça sera derrière les bagages dans le train », et du coup, il y a une empathie qui se crée.
Avec du comique, beaucoup d'humour.
Une rencontre qui se fait parce que d'un seul coup, comme ce sont des éléments très concrets qui se mettent en scène, dans un espace très concret, eh ben, on peut se relier à eux et les comprendre.
Marie sort bien encore.
Juste une conclusion, on parle beaucoup de démocratisation au théâtre, de comment cette décentralisation culturelle de ces lieux qui ont été placés comme ça dans des banlieues autour de Paris ou en province... peuvent justement irriguer le territoire où ils sont, et je trouve que là c'est un exemple réussi de ce qu'on peut faire quand on a un CDN dans ces territoires-là, et comment par ces propositions-là elle infuse un territoire et elle arrive à créer des choses avec les gens qui habitent là.
Oui, il faut qu'il y ait davantage de spectateurs qui se rendent à la commune, notamment ceux qui sont de l'autre côté du périphérique, c'est-à-dire les Parisiens, qui aillent à la commune, en l'occurrence pour cette pièce d'actualité numéro 14 qui s'intitule donc Dévoilé, spectacle de Richard Maxwell, c'est jusqu'au 6 octobre. Alors, par exemple, demain mardi, et ce sera le cas le mardi suivant, ou à moins que ce soit déjà fini, je ne sais plus, il faut que je compte, le mardi c'est à 14h. Les mercredis et jeudis à 19h30, le vendredi à 20h30, samedi 18h et dimanche 16h. Voilà, différents horaires pour ces différents jours pour découvrir cette pièce d'actualité dévoilée. Avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec David Dana qui nous a rejoint. Pour nous rappeler d'abord la question qu'il a posée vendredi et nous donner sa réponse, David.
qui est le commissaire de l'exposition Cabinet de curiosité, et la réponse est Laurent Lebon.
Ce soir, des invitations à gagner pour aller découvrir la rétrospective de Kira Muratova, cinéaste disparu il y a peu de temps et qui a vraiment laissé une œuvre considérable, magnifique et assez méconnue. C'est l'occasion de se rattraper puisque cette rétrospective débute au cinéma ce mercredi. Quelle est la question, David ?
Dans quel film de Kira Muratova le chanteur Vladimir Vysotsky a-t-il joué ?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et David Dana. Prise de son ce soir, Inès De Bruyne. Réalisation, Alexandre Fougeron. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter ou podcaster nos émissions. Demain à 19h, une dispute musique. Je serai en compagnie de Sophie Bourdet, Emmanuel Giuliani et Laurent Burry. À notre affiche, Les Indes galantes de Rameau, mise en scène de Clément Cogitor à l'Opéra Bastille. L'inondation, musique Francesco Filidei, texte et mise en scène Joël Pommerat, c'est à l'Opéra Comique. Nous parlerons du CD des concertos pour piano 3, 4 et 5 de Camille Saint-Saëns par Alexandre Kantorov. Il y aura un coup de cœur de Sophie Bourdet pour, j'ai oublié le titre de l'opéra de Pascal Dussapin, Macbeth Underworld. C'est à la Monnaie à Bruxelles.